Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Capi Service. Nous allons à présent échanger autour de l'accouchement, comment avoir un accouchement dans des meilleures conditions. On en parle avec Madame Stéphie Louaoula, qui est sage-femme indépendante. Madame Stéphie Louaoula, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, des questions et préoccupations. Appelez déjà au 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Capi Service. Dieudonné Nyangassa assure la mise en onde de cette émission. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation. Et Nelson Nyombe au multimédia. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiocapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiocapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Bien, dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler de l'accouchement, comment avoir un accouchement dans de meilleures conditions. Vous savez qu'il y a, des femmes qui ont des accouchements difficiles, tout n'est pas réuni pour les permettre de donner naissance dans de bonnes conditions. Et il y a l'accès à des soins prénatales et postnatales de qualité, voilà. Tout ça, c'est des défis dans certains centre de santé. Alors il faut qu'il y ait des efforts pour améliorer les infrastructures de santé, la formation du personnel médical afin de permettre une bonne prise en charge des femmes qui viennent pour accoucher. Alors comment tout cela peut se faire? On en parle aujourd'hui, on en discute avec Madame Stéphie Louaoula, qui est sage-femme indépendante. Madame Stéphie, encore une fois bonjour et ravie de vous avoir dans cette émission.
C'est un plaisir pour moi aussi.
Alors, sage-femme, qu'est-ce que cela veut dire d'abord cette appellation sage-femme?
Donc sage-femme, ça veut tout simplement dire que la sage-femme est auprès de la femme. Donc sage pour sagesse, femme pour accompagnante de la femme. Donc c'est-à-dire que même les hommes, on les appelle des sages-femmes.
Parce que la femme, même les hommes?
Même les hommes. Mmh. La femme, c'est vraiment celle qu'on accompagne. Voilà.
Voilà. Alors, quel état des lieux vous faites par exemple de l'accouchement, la prise en charge des femmes enceintes dans notre pays?
Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui accouchent encore dans des conditions déjà qui sont assez déplorables. Et en plus de ça, la position actuelle, qui est la position allongée sur le dos, la position gynécologique, on la recommande de moins en moins. Tout simplement parce que c'est pas une position qui favorise la descente du bébé. Souvent, l'enfant, quand il est dans le bassin de la maman et qu'il doit sortir de son ventre, si la femme est dans des positions accroupies, à quatre pattes, assises, à genoux par exemple, c'est ce qui va faciliter l'accès et la sortie de l'enfant. Alors que sur le dos, la descente de l'enfant est ralentie, la femme a plus de douleurs, plus de déchirures. Donc c'est vrai qu'on conseille de moins en moins parce que ce n'est pas physiologique, ce n'est pas des positions normales. D'ailleurs, il y a encore 100 ans, nos grand-mères, nos arrière-grand-mères n'accouchaient pas comme ça.
Elles accouchaient
normalement, c'est-à-dire accroupies, à quatre pattes, avant que l'homme vienne mettre sa science et changer un peu les mentalités et comment dire les protocoles. Mm-hmm. Nos arrière-arrière-grand-mères n'accouchaient pas comme ça. Et en fait, c'est plus pour du confort finalement. C'est pour le confort de la sage-femme et du médecin, et non pas pour le confort de la femme, alors que c'est elle qui accouche. Donc c'est elle qui doit être à l'aise.
Donc cette position-là n'est plus du tout conseillée.
Elle n'est pas conseillée et pourtant c'est ce qu'on voit encore partout, presque partout dans les films. Donc du coup les gens pensent que c'est la normalité alors que pas du tout.
Mmh. Et donc quelle est la meilleure position recommandée aujourd'hui pour accoucher? Vous avez dit accroupie ou...
Oui, la meilleure condition c'est toutes les positions sauf allongée sur le dos. Donc on peut accoucher debout, assis, dans l'eau, accroupie, à quatre pattes. En fait sur le côté tant que on n'est pas sur le dos parce que ça ferme le bassin. La position sur le dos ferme le bassin et l'enfant a du mal à sortir. Et donc du coup, c'est d'autres choses qu'on doit faire, d'autres interventions pour faciliter la sortie. Alors que si on fait une position simple et physiologique, on n'a rien à faire presque.
Oui, mais est-ce que tout cela dans notre pays, par exemple, c'est déjà pratiqué ou c'est...
Tout à fait, ça commence.
On le pratique déjà?
Ça commence parce que les sages-femmes, on travaille justement avec les sages-femmes du Congo pour sensibiliser aux soins humanisés. Donc ça commence, on forme des sages-femmes. Moi, c'est la première maison de naissance au Congo. Donc du coup, les femmes accouchent dans l'eau déjà, elles accouchent à quatre pattes, elles accouchent debout, elles accouchent vraiment dans la position qu'elles souhaitent. Et le problème aussi, c'est que malheureusement, les femmes, quand elles arrivent en travail, on les allonge sur le dos, elles ne bougent plus. Alors qu'un travail, c'est fait pour que la femme bouge. Elle doit bouger, plus elle bouge, plus son travail accélère et plus son accouchement se fait rapidement.
Et là, il y a moins de douleurs.
Et moins de douleurs. Et surtout dans l'eau, il y a encore moins de douleurs. Et l'eau, ça nécessite... Nous, on a une piscine qu'on gonfle, mais une femme qui est chez elle, elle a une baignoire, elle remplit sa baignoire, la douleur aussi diminue. Et en plus, son travail accélère. L'eau accélère vraiment le travail, quoi.
Mais on va pas étouffer le bébé si elle doit, une femme doit accoucher dans l'eau.
Non, pas du tout. Le bébé, il sort et il va très bien.
Je me demande bien comment ça se passe avec, parce que quand le bébé va sortir, bon, peut-être on va les récupérer rapidement.
Pas forcément. On le récupère, oui, mais bon, il n'y a pas d'urgence. Tant qu'il est relié à son cordon ombilical qui permet l'oxygénation, bah, il n'y a aucun problème.
Il n'y a aucun souci.
Les problèmes commencent dès qu'on coupe le cordon. D'ailleurs, on coupe le cordon même trop tôt. Souvent dans les films, félicitations madame, vous avez accouché, papa a coupé le cordon. Ça prend même pas une minute. Alors que normalement, il faut au moins 5 à 10 minutes pour que tous les échanges sanguins, tout le sang passe chez le bébé et qu'il ait moins d'anémie à la naissance. Et alors qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait, quoi. Mais c'est des choses qu'on commence à travailler et de plus en plus. En Europe, ça se fait déjà beaucoup, hein, donc il faut aussi qu'on ne consulte pas, quoi.
D'accord. Est-ce que tout... vous avez dit qu'il y a, des formations déjà qui se font
Petit à petit, on forme des sages-femmes. Ouais. Les sages-femmes forment d'autres sages-femmes. Et puis, les infirmières qui sont à l'hôpital, maintenant, il n'y aura que des sages-femmes qui seront dans les hôpitaux depuis que la sage-femme est devenue médicale. La sage-femme, il y a encore quelques mois... depuis 2024, elle est devenue médicale. Avant, elle était paramédicale. Donc, c'est vraiment une profession à part entière, compétences médicales définies. Donc, aujourd'hui, la sage-femme, elle fait pas que des accouchements. La sage-femme, elle accompagne dans la contraception, dans la gynécologie, elle accompagne dans la grossesse, elle accompagne après l'accouchement, elle accompagne dans l'allaitement, elle accompagne dans la ménopause. Mmh. En fait, aujourd'hui, chaque femme devrait avoir une sage-femme dans sa vie, quoi.
Bien. On va accueillir les auditeurs. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Il s'agit deux auditeurs déjà. Roger Marcel de Kinshasa et Paul Ngoy de Lubumbashi. Roger Marcel, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi, et bonjour à notre invité. Ouais, merci beaucoup pour ces explications. Parce que moi, je dois intervenir parce que, par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est dans la ville de Kinshasa ou ce genre de choses se passent. Parce que lorsque vous constatez, vous allez voir la plupart des femmes lorsqu'ils partent accoucher. Si les femmes arrivent, il ne fait pas quelques minutes, directement vous allez voir, il faut toujours passer aux césariennes. C'est quelque chose qui sont vraiment étonnant par rapport à ce qui s'est passé dans les temps. La femme pouvait aller accoucher vraiment normalement. On s'est dit, il y a même, je pense, des femmes... qui ne sont pas vraiment adaptés à des systèmes. Lorsque même la femme part même suivre un peu le programme jusqu'à arriver au mois de donner naissance, je pense qu'il y a des choses vraiment qui se passent qui ne sont pas vraiment normalement. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, on pouvait passer toujours dans des formations pour que nos femmes-là puissent avoir un peu de connaissances sur ça. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, vous constatez, il y a toujours des morts. Il y a même des filles qui partent aujourd'hui de sa première naissance. C'est le bébé qui reste, ou bien c'est la maman qui est décédée, ou bien c'est la maman qui, ou bien le bébé qui est décédé et la maman qui reste. Je connais un peu, je pense la semaine passée, le cas d'une sœur qui est allée donner naissance. En arrivant, on n'a pas même fait même plus de 2 heures ou 3 heures. Lorsqu'elle a donné naissance, on a eu à perdre un peu l'enfant en disant non, il y a eu un cas là qui était vraiment grave. On a quitté l'hôpital Croix-Rouge jusqu'à aller même au niveau de Mama Yemo. En arrivant là-bas, il y a eu un peu des choses qui s'est passé là. À un certain moment, on dit non, on a perdu un peu les bébés. Et entre-temps, on nous a encore exigé de chercher encore les sangs. Il faut chercher encore les seins et en attendant encore d'autres choses. Mais
d'accord. Quelle est la question que vous adressez à l'invité, Roger Marcel?
Oui, la question que je demande à l'invité pour lui demander, pourquoi pas aujourd'hui avec la nouvelle technologie, ce système-là, pourquoi on ne peut pas introduire un peu ces choses-là dans nos institutions comme ISTEM et dans des écoles pour que les femmes ou bien les femmes sages puissent s'adapter à ce qui se passe aujourd'hui? Parce que si vous regardez ce qui s'est passé à l'époque, avec ce qui se passe aujourd'hui, je pense que non, nos femmes sages ne sont pas adaptées avec les choses qui se passent aujourd'hui. Parce qu'on constate toujours, il y a toujours des cas de césarienne par rapport à ce que nous on vivait un peu dans d'autres époques.
Merci. Paul Ngoy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour madame l'invitée. Nous avons une petite expérience que nous avons constatée dans un village, dans des milieux ruraux, c'est grave. Mm-hmm. Parce que le personnel, c'est carrément un besoin par carence, et les gens s'improvisent carrément pour donner pour même faire des accouchements comme ça de façon désordonnée, parce qu'il n'y a pas des infrastructures, il n'y a pas de structure de l'État, donc c'est carrément les privés par carence qui s'improvisent comme ça, et les infrastructures, c'est dommage. Il y a carrément, donc c'est carrément des herbes enfouies, introduites donc dans des sacs comme ça qui sont comme des mousses, et là on reçoit des accouchés comme ça, et vous dis, le matériel, n'en parlons même pas.
Oui.
Alors, les accouchements aussi précoces. Au village, je vous dis que de 14 à 15 ans déjà, les petites filles déjà sont accordées seulement au mariage. Quand ils sont là, je vous dis, ils ne connaissent rien. Par rapport à la CEP, elle n'existe même pas. Donc c'est vraiment se débrouiller de n'importe quelle manière. Et la situation financière fait que les parents veulent carrément amener les enfants chez un membre de la famille qui a une petite expérience. Il fait accoucher, donc, parce que les moyens ne sont pas là. Parce que les enfants même,
oui,
ils sont encore des tout petits, ils ne connaissent pas les soi-disant parents irresponsables, ils n'ont rien. Et carrément, un membre de la famille peut faire n'importe quoi et ça passe. Moi, je pense, je ne sais pas la question à l'invité. Y a-t-il une loi qui réglemente les accouchements RDC? Parce qu'il paraît qu'en Chine, on a droit qu'à un enfant. On donne le temps à un seul enfant, c'est fini.
Oui.
Je ne sais pas si en RDC, s'il y a une loi en ce sens. Parce qu'aujourd'hui, à Lubumbashi, moi, je vous dis qu'il y a même des chers qui donnent naissance. Hein, des enfants de la rue, si vous trouvez qu'un bébé qui embrousse là, ils sont là-bas à côté d'une maison non habitée, ils sont avec des enfants aussi là-bas. Je ne sais pas, on va avec ce pays, si on peut réglementer ça. Je ne sais pas s'il y a une loi en ce sens. C'est ça ma question à l'invité, s'il vous plaît. Je m'arrête par là pour laisser la place aux autres.
Bien, merci d'avoir appelé de Lubumbashi, oui. Monsieur Paul Ngoy. Nous, on va accueillir Justin Koulou de Kasumbalesa. Bonjour Justin.
Bonjour.
De Fungurume, mais Tati, je crois que c'est de Fungurume. Voilà, il est plutôt à Fungurume. Voilà, j'ai retenu.
C'est Fungurume.
Allez-y.
Ok. Je dis bonjour à notre invitée, madame qui est au studio, et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Kouapi qui nous suivent ici.
Quelle est votre question?
Il y a un point que j'ai toujours signalé.
Oui.
Apparemment, la vie au village est beaucoup négligée que celle de la ville. Vous avez la totalité, même madame qui est au studio là.
Allô? Allô? Je pense qu'on l'a, on l'a perdu. Justin Koulou, on va accueillir Ismaël Mompoy. J'invite aussi les dames qui nous suivent, chères dames. Appelez-nous, le standard est déjà ouvert, composez les 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Ismaël Mompoy de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à ma dame invitée.
On vous écoute.
Oh oui. La première question, c'est de savoir pourquoi la CPN doit être très importante. Quelle nuance peut-on faire entre le personnel soignant, un malade et les structures sanitaires? De deux, j'avais voulu dire qu'il a fallu assez que madame nous explique. Il faut qu'il y ait aussi une différenciation entre la multipart et la primipart. Parce que la prise en charge des multipart doit être différente de celle des primipart. Pourquoi? Parce que celle-là, il faut la préparer bien mentalement, la dire que l'accouchement est un fait naturel, bien que ça va engendrer quand même des douleurs, mais c'est cela. Mais quelles seront maintenant les conduites à tenir vis-à-vis d'un personnel qui va la faire accoucher? Disons, nous avons quand même des règles, soit de soutenir le périnée, changer la position de tout ce qui vient de sortir, préparer l'enfant, la nettoyer, et qu'on sort tout ça, pourrait aussi avoir des effets aussi sur la maman et le bébé qui va naître. En plus aussi, il y a un grand problème dans la prise en charge des post-partum. Parce que les bâtiments ou les bâtiments gynécologiques que nous avons ne sont pas bien adaptés. Cela pouvait, elle pouvait faire aussi certaines recommandations parce que les bâtiments ou la construction aussi influencent aussi des personnels et les malades. Et je pense qu'elle pouvait aussi insister sur là.
D'accord.
Mais sur aussi le matériel et les lits d'accouchement. Ce n'est pas en tout lieu où nous pouvons trouver les lits spécifiques tels ceux qui sont utilisés dans des hôpitaux et d'autres ceux qui sont utilisés dans des centres de santé ou dans d'autres pays que dans notre pays. Je pense qu'elle pouvait aussi faire quand même ça, bien que dans d'autres endroits, il y a aussi des matériels qui est dans une salle d'accouchement, mais qu'on ne peut pas utiliser par tout le monde parce qu'on ne leur a pas appris que ça, ce sont la spécialité dans l'accouchement.
Merci, merci beaucoup. Merci. D'accord, préparation mentale. D'accord, merci beaucoup Ismaël pour toutes ces préoccupations. On va commencer avec la question de Roger Marcel de Kin. Pourquoi les femmes décèdent à l'accouchement? Pourquoi ne pas instaurer ces nouvelles approches dans la formation des sages-femmes, tout ça, des infirmiers, et puis il a parlé aussi de la césarienne. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, Madame Stéphie, par rapport à toutes ces préoccupations-là?
En tout cas, beaucoup de choses très intéressantes.
Oui.
La première, c'est que les systèmes, en tout cas les étudiants, sont déjà sensibilisés hein, par rapport à l'accouchement physiologique, l'accouchement normal, la prise en charge des femmes enceintes. Et tout ça, en fait, c'est déjà dans le cursus des sages-femmes. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur Kinshasa, il y a énormément de sages-femmes qui n'ont pas de travail, dont les nouvelles diplômées. Et les anciennes sages-femmes qui sont dans les hôpitaux, elles ne font pas de formation continue. Donc, elles sont encore avec des vieilles pratiques.
Des vieilles techniques. Ouais.
Voilà. Et donc, le problème, c'est que c'est elles qu'on doit commencer par former et remettre à jour, en fait. Et c'est là où est la problématique. Donc, il y a différents organismes qui financent les sages-femmes pour qu'on puisse étendre la formation et les mises à jour dans les provinces du Congo. Mais voilà, c'est quelque chose qui est... Le Congo est grand. Et donc, du coup, ça se fait petit à petit, mais ça commence à se faire. Maintenant, par rapport aux césariennes, le plus important, et je sensibilise beaucoup les femmes pour les CPN, pour les consultations prénatales, pour les cours d'accouchement, les cours de préparation à l'accouchement, les femmes doivent suivre leur CPN. Parce que une femme aujourd'hui qui ne suit pas les CPN, elle arrive, elle a une grossesse de 9 mois, on n'a fait aucune échographie, et à l'accouchement, elle a un enfant qui est non viable. Donc imaginez cette femme-là, elle aurait fait une échographie par exemple à 12 semaines, on aurait pu enlever l'enfant parce qu'il est non viable. Donc elle porte un enfant qui est viable dans le ventre, mais qui est non viable à l'extérieur de l'utérus. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment encourager, on peut éviter beaucoup de maladies, beaucoup de choses. Donc il faut encourager les femmes, c'est très important les CPN. On a parlé aussi de préparation mentale, donc une femme doit aussi connaître son corps, elle doit savoir comment son corps fonctionne, elle doit savoir comment son bébé va sortir, et que ce soit primipare ou multipare, c'est exactement la même chose.
C'est la même chose.
Parce qu'une grossesse peut être, une femme peut avoir 3-4 grossesses, mais c'est des grossesses différentes, des accouchements différents, donc on doit sensibiliser de la même manière de toute façon.
Et il faut la préparer ou lui dire que vous ne serez pas allongée.
Exactement, et ça se prépare, parce que moi par exemple quand je fais des cours d'accouchement aux femmes, les maris sont là parce qu'ils sont tout aussi concernés et on ne doit pas les mettre à part parce qu'ils font partie de ce projet. Mmh. Et donc du coup, les femmes doivent savoir que, ok, si je viens, il ne faut pas qu'on m'allonge tout de suite. Si je viens, il faut que je bouge, il faut que je marche, je ne dois pas être allongée et commencer à crier, non.
Mais d'ailleurs, on demande à certaines femmes de faire des exercices,
exactement,
un peu des sports, tout
exactement
ça.
Pendant la grossesse,
ce n'est
pas déconseillé. Les rapports sexuels ne sont pas déconseillés.
Oui.
Une femme enceinte, s'il n'y a pas de problème, n'est pas malade. Donc elle est comme une autre personne, ce n'est pas une personne malade. Donc ce n'est pas une soignée. C'est une femme qui est enceinte, qui porte un bébé, qui, elle, en tout cas, je parle dans 85% des cas où les grossesses se portent bien.
Mmh.
Je ne parle pas quand il y a une pathologie. En tout cas, quand ça se passe bien, une femme enceinte, elle peut tout faire. Et il n'y a pas besoin de matériel spécifique pour un accouchement. Il n'y a pas besoin d'un lit, je ne sais pas, high-tech.
Oui.
Il faut juste un matelas et la femme, elle accouche sur le matelas. Parce que, en fait, peu importe la position qu'elle va choisir, un accouchement physio ne demande pas d'avoir des
étriers. On n'a plus besoin d'avoir un plateau technique.
Non, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir des étriers. Vous voyez, les étriers, c'est ce qu'on met pour que les femmes écartent leurs jambes et qu'elles accouchent sur le dos.
Oui.
Ça, on n'en a pas besoin. Parce que normalement, on ne va pas accoucher comme ça. Donc, une femme, s'il y a juste un matelas, des pinces, un ciseau, ça suffit pour un accouchement. Et du médicament pour une hémorragie si besoin.
Plus besoin de s'allonger.
Elle peut être à quatre pattes, accroupie. Et puis justement, c'est quand l'accouchement est respecté qu'il y a moins de complications. Mmh. Donc si la femme ne stresse pas, eh ben elle ne saigne pas. Une femme qui stresse, elle va saigner. Donc tout est lié en fait. Une femme qui est bien, une femme qui accouche bien, elle stresse pas, elle a pas de déchirure, elle saigne pas. Et aujourd'hui, on sait que les morts maternelles, c'est l'hémorragie éventuellement et les infections en majorité. Donc déjà, mais tout se travaille en amont.
Ça dépend aussi de la position du bébé, parce que si les bébés se présentent par le bas, il semble que souvent ça complique aussi.
Ça dépend de comment est le siège en question, ça dépend de s'il y a un pied, s'il n'y a pas de pied, mais la majorité des sièges au Congo en tout cas, ça c'est l'avantage de l'Afrique, c'est que les médecins sont tellement habitués à pratiquer ce genre d'accouchement que souvent ils le font par voie basse. En Europe encore, ils sont là un peu avec beaucoup de hantises et ils font beaucoup de césariennes pour des sièges. Mais aujourd'hui, en Afrique, l'avantage, c'est que quand même, la pratique reste et qu'une femme, si son travail se déroule bien, que ce soit une tête ou un siège, eh ben, ça va bien sortir si la position est respectée, quoi.
Bien, Paul Ngoï dit que dans les milieux ruraux, c'est catastrophique. Hein. Il y a presque rien. Les accouchements se passent dans des conditions très très difficiles. Et il a évoqué beaucoup de raisons, la pauvreté, tout ça, etc. Alors pour les femmes qui sont dans les milieux ruraux, qu'est-ce que vous conseillez, madame?
La formation de la sage-femme. Oui. Là, franchement, il n'y a pas que la formation des sages-femmes, c'est aussi la formation et les cours pour les femmes. Je pense qu'au bout d'un moment, il ne faut pas tout mettre sur les sages-femmes parce qu'il y a une réalité qui fait qu'elles sont peu nombreuses dans les milieux ruraux. Donc alors, il faut informer les femmes, leur donner la connaissance et leur dire, ok, le corps se passe comme ça, l'accouchement se passe comme ça, s'il y a ça, faut faire ci, s'il y a ça, faut faire ça. Ou là où il y a des structures qui sont, je sais pas moi, à 50 km du lieu d'habitation, il faut qu'elles puissent savoir quoi faire si elles se mettent en travail. Mmh. Et ça, je pense que il y a possibilité de descendre dans ces villages pour pouvoir sensibiliser. Et c'est des choses qui se transmettent assez facilement parce que finalement, un accouchement comme c'est naturel, il n'y a rien de compliqué. On n'apprend pas un enfant à respirer, il respire tout seul. Donc on n'apprend pas une femme à accoucher parce qu'elle sait le faire. Il faut juste lui faire des rappels et lui expliquer. Mais en soi, c'est quelque chose de inné en fait.
Bien. Il y a également une autre question d'Ismaël qui veut savoir quelle est l'importance du CPN. Et puis voilà, il a parlé de la préparation de la femme, tout ça, les lits d'accouchement, etc. Beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous pouvez le dire?
Voilà, c'est ça que je disais justement. Les CPN, c'est très important. Normalement, c'est une consultation au moins une fois par mois jusqu'à la fin de la grossesse. Et ça permet de détecter des pathologies. Donc, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui font de l'hypertension. Une hypertension qui n'est pas découverte à temps peut faire de la pré-éclampsie, qui est une pathologie de la grossesse et qui peut entraîner et la mort fœtale et la mort maternelle déjà pendant la grossesse. Donc, je pense que c'est important de les faire. Le diabète aussi peut être dépisté, éviter des gros bébés à la naissance. Il y a beaucoup de choses qu'on dépiste au CPN. Et puis, ça permet aussi aux sages-femmes d'expliquer, aux femmes d'avoir des réponses à leurs questions. Donc, c'est très important de les faire. Il faut vraiment pas négliger parce que vous pouvez perdre une vie en négligeant ces CPN.
Et pendant la CPN, on apprend aussi, voilà, vous allez accoucher de cette façon, vous allez...
C'est ça qu'il faut sensibiliser.
Telle position, justement. Telle autre. Et donc, ça veut dire qu'il faut sensibiliser, former les sages-femmes et sensibiliser les...
Exactement. Et les femmes, c'est vraiment les un ensemble. Aussi. C'est vraiment un ensemble.
Parce et que les maris aussi, hein, qu'ils soient au courant.
Et les maris. Parce qu'une femme qui est au courant, du coup, elle va pouvoir s'imposer, imposer son choix, sa position d'accouchement, et la sage-femme sera obligée de suivre. C'est comme aujourd'hui, on peut pas dire à une femme, madame, allez-y, poussez, poussez, poussez. Non, parce qu'elle a pas de péridurale, elle a pas d'anesthésie. Donc, elle-même sait comment son bébé se porte dans son corps. Elle-même sait comment elle doit pousser pour expulser son bébé. C'est pas quelqu'un qui va lui dire, fais ci, fais ça. Elle sent, c'est son corps. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut un peu modifier et rectifier.
Donc, il faut plus motiver les...
C'est pas de la motivation. C'est, je sais pas comment je peux appeler ça, mais on est en
fait, parfois il y a des sages-femmes agressives qui tapent dessus et puis qui vous crient dessus.
Donc pour moi c'est pas la motivation. Tu peux guider une femme et lui expliquer, allez-y madame, c'est très bien ce que vous faites, continuez comme ça, écoutez-vous, sentez votre bébé. Ça c'est de la motivation.
Et pas l'insulter.
Mais une sage-femme qui dit, allez poussez madame, poussez, mais qu'est-ce que vous faites là, arrête de crier.
Yo zoba tout ça.
Donc ça c'est de la malveillance et de la maltraitance. Et là c'est pas la motivation.
C'est pas la motivation. On va accueillir Emina Mwanda de Bukavu et Malonga de Bandounouville. J'invite aussi les dames qui nous écoutent en ce moment. Mesdames, appelez-nous au 099-706-9941 pour participer à cette émission parce que c'est une question qui vous concerne particulièrement. Emina Mwanda de Bukavu, bonjour.
Bonjour Monsieur Jordi, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio.
Bien, nous parlons de l'accouchement physiologique dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cela?
Oui, j'ai au moins certaines questions que je vais poser à l'invité. La première est de savoir quelles sont les conditions probables qu'on doit réunir pour que les femmes puissent accoucher normalement. Parce qu'il y a certaines femmes qui arrivent à terme avec beaucoup de problèmes parce qu'elles n'ont pas connu un bon traitement lors de leur pendant la période de leur grossesse. Quelles sont les conditions qu'on doit mettre la femme pour qu'elle accouche normalement son stress? La deuxième question est de savoir, est-ce que l'invité peut nous aider à nous donner la différence entre la sage-femme et la coucheuse de la patrie? Auparavant, on croyait qu'une accoucheuse est toujours une sage-femme. Et pourtant, il y a même des gens qui font que c'est la sorte que le département là à l'université aux institutions supérieures. Autre question.
J'ai pas bien retenu cette question là, la différence entre la sage-femme et l'infirmière, c'est ça?
Non, et la coucheuse.
OK.
Oui. Alors, une autre question de ces jours-ci. Est-ce que la sage-femme peut assister la femme qui veut accoucher à la maison et faire tout ce qui est nécessaire au niveau de la maison pour la mener à l'hôpital? Et autre question, peut-être la dernière, pour vous utiliser la parole. Quels sont les premiers soins d'urgence que la femme qui accouche en cours de la route pour aller pour suivre l'accouchement à l'hôpital? Quels sont les premiers soins d'urgence qu'on doit admettre à cette femme-là pour que la femme et l'enfant ne puissent pas subir des problèmes?
Bien, merci beaucoup. Merci, Amina. On va donner la parole à Malonga de Bandounouville. Bonjour, Malonga.
Oui, bonjour, Jody. Bonjour à notre invité là-bas. Merci beaucoup.
Quelle est votre question? Jody,
vous savez que il y a un adage qui dit que l'homme est né naturellement bon, mais c'est la nature qui lui a rendu mauvais. Moi, je suis chrétien. Oui. Dans la Bible, on dit seulement Dieu lui-même qui avait créé ce monde, il avait créé l'homme et la femme. Et puis, si vous lisez à la lecture, il avait dit que la femme accouchera par difficulté, par des douleurs, seulement. Dieu n'avait pas dit que après l'accouchement, la femme sera morte ou bien aura beaucoup de problèmes ou bien des césariennes. Mais c'est la condition qui nous pousse aujourd'hui d'avoir tout ce que nous subissons aujourd'hui. Bon, meilleure condition d'accoucher, moi je peux dire, en tout cas, je ne sais pas. Je peux vous narrer une histoire. J'ai une maman là au village, chez nous. Elle avait mis au monde 7 enfants. Elle-même, s'il vous plaît. On le verra enceinte. Et puis, vous verrez seulement le matin, elle vous présente un enfant. Ou bien, elle était partie à la forêt, elle va vous amener un enfant.
Un bébé.
Très, très bien. Oui, un bébé. Très bien, je dis. Elle est vivante, cette maman, et ses enfants, tous sont vivants. Alors, meilleure condition, je peux dire, c'est quoi? Oui, c'est la modernisation. Il y a des hôpitaux, il y a des maternités qui sont bien construites. C'est là, oui. Vous avez demandé à notre invité la CPN. C'est à CPN qu'on dit qu'une maman enceinte, elle doit changer le régime alimentaire, c'est là, pour éviter tout ce qui peut lui rencontrer lors de l'accouchement. Mais aujourd'hui, il est désobéissant de tout ça. Vous verrez une maman qui mange même des serpents. Il est enceinte. Même elle n'a pas encore enceinte. Elle mange d'autres choses qui ne conviennent pas à la santé du bébé et de sa ventre. Tout ça,
c'est... Est-ce que c'est interdit de manger les serpents?
Mais une femme qui est encore en position de mettre au monde.
Oui. Elle ne peut pas manger les serpents.
Elle ne peut pas.
puisque ça peut avoir un lien à des formations là-bas de l'enfant et de lui-même aussi. Hein. Il a des aliments. La maman est là. Il y a des aliments
qu'on d'accord.
Des conseils.
Merci non, beaucoup. Maman, oui, ben, ça, il faut manger, ça, il faut éviter, etc. D'accord. Merci beaucoup pour la question par rapport à l'alimentation de la femme enceinte. Thomas, vous êtes à Kisangani, bonjour. Thomas, bonjour. Voilà, Thomas n'est plus en ligne. Et je reviens à Emina Mwanda qui dit quelles sont les conditions à réunir pour un accouchement, pour que la femme accouche normalement. Voilà. Ça, c'est sa première question. Et puis, il parle de la différence entre la sage-femme et l'accoucheuse. Et si l'accouchement arrive à domicile, quels sont les soins d'urgence à apporter à une femme, par exemple, qui accouche en cours de route?
Mm-hmm. Donc, la sage-femme et l'accoucheuse, en fait, l'accoucheuse, c'est exactement la même chose. C'est juste le terme qui change et qui a évolué avec les compétences en même temps. Mais en soi, une accoucheuse, c'est une sage-femme. Mais maintenant, le terme sage-femme est beaucoup plus précis. Avant, c'était des infirmières qu'on appelait accoucheuses. Aujourd'hui, la sage-femme a vraiment sa filière au niveau des études. Donc, c'est vraiment spécifique. C'est vraiment une science à part. Concernant les accouchements à domicile, moi, ça fait 12 ans que je suis sage-femme. Ça fait plus de 10 ans que j'ai travaillé en France. Et je faisais des accouchements à domicile. C'est-à-dire que la femme, elle m'appelait à n'importe quel moment. Je venais avec mon sac d'urgence et je faisais les accouchements à la maison.
Pourquoi parce qu'elle voulait pas aller à l'hôpital ou c'est
non,
parce
c'est
que...
parce que c'est par choix.
Ok.
Donc ça veut dire qu'en France, elles ont le choix de soit accoucher à la maison, soit accoucher à l'hôpital, soit en maison de naissance. Donc du coup, moi-même, j'ai 3 enfants, j'ai accouché à la maison, donc je sais très bien la valeur et la plus-value d'accoucher à la maison naturellement. Donc du coup, je comprends ce monsieur et je comprends même le témoignage concernant la maman et les 7 enfants qui accouchaient bien. Parce que une femme déjà qui est stressée en fin de grossesse, et messieurs, parce qu'il y a beaucoup de messieurs aujourd'hui qui parlent, sachez que vous êtes la source numéro 1 du stress de vos femmes. Donc c'est-à-dire que les femmes qui sont stressées en fin de grossesse, ce sont des femmes souvent qui vont peut-être avoir un travail difficile ou un travail long, parce que quand il y a trop de stress, il y a beaucoup d'adrénaline qui est une hormone qui perturbe le travail. Alors que l'ocytocine, c'est une hormone qui permet des contractions, et cette hormone, si elle n'est pas assez mise en avant, en fait la femme va avoir des complications, elle va accoucher difficilement et potentiellement avoir des hémorragies. Donc une femme doit être paisible. En fin de grossesse, en début de travail, une femme doit être en paix. Une femme qui est en paix, une femme qui est dans la joie, c'est une femme qui va bien accoucher. Une femme qui arrive à l'hôpital, qui est stressée, avec plein de lumière, avec plein de gens qui parlent autour d'elle, ce sont des choses en fait qui ne favorisent pas en fait toute la production des bonnes hormones. Donc tout ça, ça va prendre en compte. Et quand on sensibilise les femmes et les maris en leur disant, ok, les femmes en fin de grossesse, attention, ne vous prenez plus la tête. D'ailleurs, même nos mamans, nos grand-mères nous disaient, une femme enceinte, il faut pas l'embêter à la fin. Il faut pas lui donner beaucoup de soucis. Elle-même savait pourquoi elle nous disait ça.
Oui.
Parce que justement, elle savait qu'il y avait des répercussions sur l'accouchement et sur le déroulé du travail. Pourtant, aujourd'hui, on l'explique scientifiquement, mais nos mamans, déjà, à l'époque, nous le disaient parce que ça se transmettait entre femmes. Donc, aujourd'hui, une femme, elle peut accoucher à la maison sans problème. Il faut juste avoir le matériel efficace et elle doit juste savoir quoi faire et il n'y a pas grand-chose à faire à part respecter le processus. C'est pour ça que je vous dis que ça ne sert à rien d'être dans les fantaisies de matériel, high-tech, etc. Le minimum suffit pour prendre en charge une femme correctement. On peut avoir des gros hôpitaux avec beaucoup de matériel et l'accouchement est catastrophique avec des complications. Donc finalement, je pense qu'on repart toujours dans cette éducation des femmes, éducation de la sage-femme, apport de connaissances, et ça pour tout le monde en fait.
Et quand vous allez à la maison, ça se passe dans sa chambre, accoucher voilà.
Elle accouche où elle veut, soit elle accouche au salon, soit elle accouche dans sa chambre, soit dans son jardin. Elle accouche en fait là où elle se sent en sécurité.
Okay.
Et souvent, quand elles accouchent naturellement, elles-mêmes choisissent la position. Et jamais une femme va d'elle-même choisir la position allongée. Encore une fois, on revient encore à ça parce que c'est la base même de toute chose. Toutes les femmes, et même la maman, nos mamans, nos grand-mères accouchaient accroupies souvent, ou à quatre pattes. Elles partaient dans les champs à l'époque avec des feuilles, des orties souvent qui coupaient le cordon parce que c'était assez pointu. Et en fait, elles revenaient et c'était nickel.
Et elles coupaient les cordons elles-mêmes?
Elles coupaient le cordon parce qu'elles attendaient que le cordon arrête de battre. Aujourd'hui, on coupe le cordon trop tôt. Il faut attendre au moins 5 à 10 minutes que ça arrête de battre pour que l'enfant ait tout son sang, toute l'oxygénation, parce que si on coupe trop tôt, l'enfant a moins de sang. C'est-à-dire qu'il sera plus anémié et c'est-à-dire qu'il faudra lui donner des compléments de fer, alors que si on attend un peu, l'enfant a tout son sang qu'il reçoit. Donc il y a des choses, parfois, moins on fait de choses, mieux c'est. Et plus on intervient, plus il y a des complications. Et aujourd'hui, en fait, les accouchements à domicile devraient même se faire parce que ça permettrait aussi de désengorger les hôpitaux et de former les sages-femmes pour aider les femmes à bien accoucher.
Mais est-ce qu'à domicile, est-ce que toutes les conditions hygiéniques sont réunies pour...
En fait, la femme sera toujours mieux chez elle parce que c'est sa microbiote et ses microbes. Donc elle a plus de chances d'attraper une maladie à l'hôpital que là où elle habite et qu'elle vit, en fait. parce que c'est après faut évidemment il faut un minimum d'hygiène, mais en soi vu que c'est chez elle, c'est ses microbes, elle a moins de risque d'avoir quoi que ce soit.
Alors si l'accouchement intervient en cours de route, comment intervenir? Et puis voilà, Éminent veut savoir quels sont les soins d'urgence à apporter à une femme qui accouche en cours de route.
Le plus important, c'est qu'il faut couvrir l'enfant pour pas qu'il perde la chaleur. Ça, c'est le plus important. Toujours avoir une serviette à côté. L'enfant naît, on couvre, et puis on laisse ce cordon-là, justement, arrêter de battre tranquillement. Et surtout, pour la femme doit toujours avoir chaud. Parce que une femme qui a froid peut saigner plus facilement. Donc, le fait qu'elle soit pas stressée et qu'elle ait chaud permet, en fait, de favoriser une bonne évacuation du placenta. Un placenta qui commence à saigner, c'est un placenta, c'est-à-dire, enfin, un utérus qui saigne, c'est un placenta qui se décolle. Donc, la femme peut prendre le cordon et pousser son placenta et le sortir. Mais ça, c'est des choses qu'on peut apprendre aux femmes et c'est assez facile à faire. Mais si elle ne le sait pas, elle ne le fera pas. Mmh. Et pourtant, c'est quelque chose d'assez simple et qu'elle peut faire elle-même. Hein. En fait, on peut accoucher seule finalement.
Oui, donc on peut accoucher seule.
On peut accoucher seule. Il faut juste maintenant savoir quoi faire. Mais les sages-femmes sont là pour sécuriser et elles sont un peu les gardiennes aussi du couple mère-enfant, quoi. Mmh.
Malonga nous dit que voilà, Dieu a dit que la femme va accoucher difficilement. Aujourd'hui, avec ses techniques, lui il se pose la question de savoir, mais donc il y aura plus de douleur, etc. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à toutes ces préoccupations-là?
Oui, accoucher dans la douleur, oui, c'est biblique, certes, mais on peut quand même alléger la douleur de la femme. Je pense que c'est pas interdit, et cette douleur, elle peut être allégée justement avec la sensibilisation des cours d'accouchement, des cours de préparation, l'eau, les massages dans le dos, la marche, tout ça, c'est des choses qui ralentit et qui apaise vraiment la douleur chez la femme. Donc on parle pas encore d'anesthésie, hein. Là je suis même pas dans ça, je suis dans les choses naturelles encore, sans parler d'anesthésie péridurale qui n'est même pas accessible aujourd'hui dans tout le Congo, quoi. Mais clairement une femme
Il y a des femmes qui recourent qui peuvent accoucher sous anesthésie
péridurale, donc okay. Ça veut dire que c'est une piqûre qu'on fait au niveau du dos qui anesthésie du ventre jusqu'aux jambes. Et ça se fait beaucoup à Kinshasa, mais très peu de femmes y ont recours parce que elles préfèrent encore accoucher naturellement. Ce qui est d'ailleurs le mieux parce qu'elles ont une meilleure récupération après la naissance, quoi. Donc c'est quand même mieux.
Bien, on va accueillir Zachary de Kananga, Thomas de Kisangani et puis Zachary de Kananga. Tati, jusque-là, aucune femme n'a appelé. Nous invitons les dames à appeler, s'il vous plaît, les dames. Cette question vous concerne particulièrement. Composez les 099-706-9941. Thomas, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour, monsieur, je vous dis.
Quelle est votre question,
Thomas? Bonjour à l'invité. Merci beaucoup de la parole nous accorder, monsieur Jody. D'entrée de jeu, en tout cas, l'accouchement est un moment crucial dans la vie, en tout cas, d'une femme. Et cela, ça marque, en tout cas, une grande intensité, tant émotionnelle, mais également physique. Parce que lorsque vous imaginez une femme qui accouche pour la première fois, c'est elle a beaucoup de vie, elle peut ressentir beaucoup d'émotions. Cette émotion peut être également dans les sens, mais vraiment physique, parce que c'est la concentration pour que la femme puisse sortir. Mais quand cela n'est pas des préoccupations à poser à l'invité, la première question c'est quels sont en tout cas les différents aspects à la préparation physique pour un accouchement épanoui. En fait, l'invité a parlé ici de la préparation qu'il faut se préparer. Mais si le point, par exemple, quels sont en tout cas, par exemple, la préparation physique, quels sont les différents aspects qui peuvent entrer en ligne de porte concernant la préparation physique. La deuxième question, c'est quel est le rôle, parce que j'avais parlé à une dame là, on avait dit l'environnement également joue un rôle très important au niveau de l'accouchement. Je ne sais pas quel est le rôle que joue l'environnement dans le déroulement d'un accouchement, en tout cas, il parle. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, je vais citer par celle-ci, monsieur, je vous dis comment, mais également informer, en tout cas, et se renseigner sur les différentes options d'accouchement. Ça aussi, je ne sais pas si l'invité, est-ce qu'il y a des émissions quant à ça, est-ce qu'il y a des sensibilisations quant à ça, pour informer ou raffiner, en tout cas, les différentes options lié à l'accouchement. C'est pour ça nos trois petites préoccupations aujourd'hui.
Bien, merci Thomas. On va accueillir Zachary de Kananga. Zachary, bonjour.
Bonjour à Radio Kati, bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, je suis vraiment heureux de m'avoir appelé. Mais j'ai des petites questions de savoir pourquoi l'accouchement est seulement garanti au niveau rural. Parce que ici à Kananga, il y a beaucoup de centres de santé dans lesquels l'accouchement n'est pas gratuit. Or, là aussi, provoque certains différents auprès des femmes qui cherchent à accoucher. Certaines parviennent à accoucher dans leur maison. Alors, quand nous sommes intéressés, les personnels de santé nous disent que les centres de santé où les accouchements sont gratuits sont seulement ceux qui sont pris en charge par la Banque mondiale. Mais pourquoi tous les autres centres de santé? Parce que l'accouchement gratuit est un droit garanti par la Constitution.
Zachary, alors quelle est la question que vous adressez à l'invité rapidement?
Oui, pourquoi tous les centres de santé ne sont pas... L'accouchement n'est pas gratuit dans tous les centres de santé. C'était la première question.
D'accord. Pourquoi l'accouchement n'est pas gratuit dans tous les centres de santé? Oui. Deuxième question.
Oui. La deuxième question. Le secteur de santé a produit beaucoup d'efforts pour garantir le bon épanouissement de l'accouchement. Alors, pourquoi cela se fait surtout au niveau rural et non au niveau urbain? C'est ça la deuxième question.
Bien, merci beaucoup d'avoir appelé des Kananga, Zachary. Bien, Madame Stéphie Louaoula, à vous la parole.
C'était la question commencée par Monsieur.
Voilà, il y a Monsieur Thomas oui. de Kisangani qui dit quels sont les différents aspects de la préparation physique à l'accouchement.
Donc du coup, la préparation physique, elle est autant importante que la préparation mentale. Vraiment, les deux, l'un sans l'autre, c'est pas possible. Donc la préparation physique déjà commence dès le début de la grossesse parce que l'alimentation a un rôle très important par rapport à comment la femme va se nourrir et comment elle va être en fin de grossesse. Une femme qui est très obèse aura peut-être plus de difficultés à se mouvoir, à bouger, qu'une femme qui est de corpulence assez normale. Donc déjà ça, on commence dès le début. On encourage les femmes à bouger pendant la grossesse, à faire du sport, à prendre les escaliers, à marcher. Parce que en fait, les femmes parfois se laissent aller en fin de grossesse et ne bougent plus dès qu'elles ont un peu mal, alors qu'il faut toujours garder en fait ce côté-là de mouvement pour limiter même les jambes lourdes, les œdèmes, les jambes gonflées, etc. Donc ça, c'est important. Et la préparation.
Est-ce qu'il y a une quantité de nourriture, par exemple, à prendre ou à ne pas dépasser?
Ça dépend des femmes. Ça dépend des femmes. C'est vraiment propre à chacun. On peut pas. En fait, la grossesse est vraiment spécifique pour chaque femme. Donc une femme peut-être peut prendre 20 kilos, alors il y aura moins de conséquences, et une autre peut en prendre 10 et avoir plus de conséquences. Tout dépend de l'IMC. Et l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Et du coup, c'est calculé en fonction de la taille et du poids de la femme. Et donc, du coup, on adapte l'alimentation par rapport à cet IMC. Donc, une femme qui fait 1m70 pour 70 kilos n'aura pas le même régime qu'une femme qui fait 1m50 pour 100 kilos. Donc, tout ça, c'est vraiment en fonction de chaque femme, quoi. Et raison pour laquelle la préparation aussi mentale est très importante, parce que les femmes oublient souvent que le mental fait tout. Si le cerveau te contrôle pendant l'accouchement, tu perds pied. Alors que si toi, tu contrôles ton cerveau, en fait, du coup, tu gères mieux les contractions. Et en fait, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de gérer les douleurs.
Et il semble que les premiers parts ont souvent peur, elles sont stressées.
Bah, si elles sont, ça dépend. Moi, mes premiers parts, je trouve qu'elles sont très bien parce qu'elles sont bien préparées. Donc là, on voit la différence entre la préparation. Parce qu'une multipart peut avoir plus peur si elle n'est pas préparée qu'une premier part préparée. Donc tout est dans la préparation encore mentale qui fait vraiment tout avec la préparation physique et les CPN, vraiment la sensibilisation autour de tout ça, quoi.
Bien. Et puis, Thomas a parlé de l'environnement. Quel est l'environnement approprié d'une femme qui s'apprête à aller accoucher?
Alors l'idéal, c'est qu'une femme, elle doit accoucher dans le noir ou dans une lumière tamisée, sans bruit, dans le calme et ne pas se sentir observée. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, un mammifère accoucher en pleine lumière et en plein jour comme ça? Est-ce qu'ils ne vont pas se cacher? Est-ce qu'ils ne vont pas dans un coin, dans l'ombre, pour enfanter? Oui ou non?
accoucher dans le noir.
Oui, en fait, en tout cas, lumière tamisée, dans une lumière tamisée.
La lumière tamisée, voilà. Ah, mais pas complètement, non, parce que comment vous allez voir?
Oui, oui, parce qu'après, on a nos lampes de torche, on a nos petites lumières pour voir ce qu'il y a à voir au niveau du vagin, mais une femme n'a pas besoin d'être dans les lumières excessives comme dans les hôpitaux. Mmh. Parce qu'on a une hormone qu'on appelle endorphine, c'est l'hormone antidouleur qui, elle, est sécrétée déjà naturellement chez les hommes et chez les femmes la nuit. Et en fait, plus elle est sécrétée dans le corps, moins la femme aura mal pendant les contractions. Et donc, du coup, cette hormone, elle est sécrétée quand la lumière est au plus sombre. Donc, du coup, l'idéal, c'est que les femmes aient une petite lumière de fond, ou en tout cas, lumière tamisée. En fait, la pénombre, en fait.
Voilà.
La pénombre. Et ça, c'est l'idéal, parce que l'environnement joue énormément. Une femme qui va être chez elle va avancer très bien dans le travail, parce qu'elle sera dans cette pénombre, dans cette lumière tamisée, dans le calme. Et dès qu'elle arrive à l'hôpital, bah, bam, une grosse lumière, du bruit, plein de questions, plein de choses, du
tout
stress.
Tout ça, ça la stresse.
Et tout ça, cet environnement est stressant, stress, adrénaline, adrénaline, complications, complications, hémorragie. Et sinon, quand la femme est dans un bon environnement bienveillant et qu'on accompagne cette femme-là sans problème, et ben clairement, l'environnement a un rôle qui joue énormément, quoi. C'est vraiment un facteur influençant.
Bien. Et Thomas veut savoir comment se renseigner sur les différentes options d'accouchement.
Normalement, une femme qui n'a pas de problème avec une grossesse physiologique est censée accoucher par voie basse. L'idéal, c'est qu'elle accouche par voie basse, sauf si complications il y a. On ne peut pas parler de césarienne à une femme qui n'a pas de complications. Donc, la césarienne, elle vient en dernière option. Donc, on peut pas, déjà, une femme arrive, elle peut pas commencer à choisir, oui, je vais accoucher par césarienne, lui, je vais accoucher par voie basse. Non, on part du principe que toutes les femmes doivent accoucher par voie basse. Et s'il y a une complication ou une pathologie, c'est césarienne. Donc, le mode, il n'y a pas de mode à choisir. C'est pas une carte, quoi. On n'est pas dans un restaurant et on choisit.
Le menu, quoi.
Voilà. Donc, c'est elle doit accoucher par voie basse parce que c'est mieux et c'est meilleur pour elle. Et si ça ne va pas, c'est césarienne.
Bien, Zachary de Kananga, pourquoi l'accouchement n'est pas gratuit? L'accouchement n'est pas... les femmes n'accouchent pas gratuitement partout...
Au Congo.
Oui, au Congo.
Ça, malheureusement, moi, je...
Vous n'avez pas de réponse à donner par rapport à cela.
Oui, c'est par rapport à l'État. Hein,
d'accord. Ça... On va accueillir Blaise Saïdi de Kisangani. Bonjour, Blaise.
Bonjour, cher Jody. Bonjour à madame l'invité.
Bien.
L'accouchement est pas une nécessité... Oui. Je parle, l'accouchement épanoui nécessite une préparation physique et mentale, un encadrement respectué, les conditions médicales sécurisées, un soutien affectif et une reconnaissance de la femme comme actrice principale de sa propre mise au monde. Je vais poser quelques questions à madame l'invitée. La première question, quels sont les facteurs qui influencent le vécu d'un accouchement? Ça, c'est la première question. La deuxième question, la présence des proches lors des accouchements est-elle autorisée et bénéfique? Et pour citer, comment éviter la violence obstétricale dans la maternité, cher Jody? Voici les trois questions que l'invité peut quand même nous éclairer.
Bien, merci. Rolly, vous êtes à Guémena, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour également à l'invité. J'ai beaucoup parlé, mais malheureusement, il n'y a plus de temps.
Il n'y a plus de temps, allez-y, allez tout droit au but.
Trois petites questions à poser à notre invité.
Oui.
La première est de connaître les quatre différentes étapes de l'accouchement. La deuxième question est de connaître la durée normale d'un accouchement. Et en fait, la définition de l'accouchement. Merci, c'est Rolly Konga depuis Guinée.
Bien, merci. Blaise, quels sont les facteurs qui influencent l'accouchement? Est-ce que un proche, le mari ou quelqu'un peut être assisté à l'accouchement? Et puis il parle de la violence pendant l'accouchement. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Donc du coup, les facteurs qui influencent l'accouchement, en tout cas un bon accouchement, bah, c'est les conditions, l'environnement, la présence d'un proche, d'une personne, en tout cas que la femme souhaite. Si elle est avec sa belle-mère qu'elle déteste, eh ben ça sera pas bien.
Ah non, ça va pas marcher.
Ça va pas marcher. Donc si elle est avec son mari qu'elle aime ou sa maman, eh ben en fait c'est quelque chose qui va la sécuriser, qui va la mettre en confiance et ça va permettre qu'elle libère beaucoup d'ocytocine, donc cette hormone justement du bien-être qui permet et qui est la seule hormone qui donne des contractions. Donc en fait il faut faire en sorte que la femme puisse libérer cette ocytocine là. Donc si elle est bien avec ces personnes doivent être présentes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça reste encore très aberrant d'interdire la présence des papas pendant le travail et l'accouchement. Donc du coup on met ces hommes-là à part alors qu'ils ont toute leur place et les femmes ont besoin d'eux. Et parfois, les hommes sont aussi désemparés parce qu'ils se disent, ok, mais qu'est-ce que je veux faire? Comment je peux l'aider? Etc. Mmh. Juste la présence, je dis souvent au papa, juste votre présence fait beaucoup, en fait.
Oui.
Parce que vous êtes là, vous êtes un soutien émotionnel et elle peut compter sur vous. Elle sait que vous pouvez l'encourager, la câliner. Donc, en fait, la présence d'un homme a toute sa place en salle d'accouchement.
D'accord. Et quelle est la durée d'un accouchement normal?
Eh ben, il n'y a pas de durée. Parce qu'en fait, chaque femme est différente. La physiologie est différente en fonction de chaque femme. Mmh. Donc, en fait, il y a différentes étapes dans un accouchement. Il y en a la phase de pré-travail, là où le col, en fait, se raccourcit. Il y en a la phase active où le col s'ouvre. Et ensuite, la phase d'expulsion du bébé. Donc, en fait, il n'y a pas de moyenne. On dit souvent qu'une primipare peut prendre plus ou moins entre 6 à 8 heures. Une multipare peut-être 5, 6 heures. Mais c'est très, très moyen et c'est pas vraiment le reflet de la réalité. Donc, en fait, chaque femme est différente, chaque femme a sa physiologie mmh. et chaque femme met le temps qu'elle a besoin pour accoucher.
Oui, Rolly veut savoir quelles sont les quatre étapes d'un accouchement.
Donc, la phase de pré-travail, la phase de pré-travail, la phase active, l'expulsion et ensuite la délivrance. Donc, la délivrance, c'est lorsque le placenta sort après le bébé. Et c'est là où on sensibilise aussi les femmes en leur disant que l'accouchement n'est pas terminé tant que le placenta n'est pas sorti. Mmh. Parce que si une femme se dit « Ok, le bébé est sorti, mon accouchement est terminé », elle envoie le message au cerveau que c'est fini et le cerveau ferme le col de l'utérus. Si le col est fermé, le placenta est bloqué dans l'utérus, donc il faut aller le chercher avec la main et c'est des choses qu'on veut éviter. Donc il faut bien dire à la femme que l'accouchement se termine après le placenta. Beaucoup ignorent qu'il y a encore un placenta à l'intérieur à évacuer. Donc du coup, c'est important.
Certains bébés ils viennent avec le placenta autour du
avec coup, le cordon.
Le donc, cordon, voilà. Pardon, oui.
Donc ça peut arriver et ça a aucune importance tant que on ne coupe pas le cordon. Et le problème c'est que ici et partout dans plusieurs pays, dès que le bébé a le cordon autour du cou, le premier réflexe c'est de couper ce cordon. Mm-hmm. Dès que vous coupez le cordon, les problèmes commencent. Alors que quand vous laissez ce bébé sortir avec le cordon,
oui.
comme il est connecté à son placenta et qu'il a tout son oxygène, eh ben il y a moins de complications que de le couper quoi.
Alors est-ce qu'il y a un programme de formation à l'intention des sages-femmes pour par rapport à toutes ces nouvelles méthodes dont...
Exactement. Oui. On a un programme en cours. On a la formation Teresa avec l'ordre des sages-femmes qui est en cours aussi. Et puis vous avez la maison périnatale située à Kinshasa où vous pouvez venir vous renseigner et prendre des cours à titre individuel ou en groupe ou en couple.
Voilà. Oui, allez-y.
C'est 9 avenue Panzi, mm-hmm. 9 avenue Panzi, Kinshasa. Donc c'est à côté de la mosquée, pas loin du Tex. C'est dans cette zone là quoi.
Mm. Donc là c'est quoi? C'est un centre de formation?
Voilà, c'est une maison périnatale où vous pouvez venir prendre des cours pour vous former. Si vous êtes enceinte, si vous n'êtes pas enceinte, vous voulez vous renseigner, vous prenez des cours pour l'accouchement et pour se préparer à bien accoucher justement dans des bonnes conditions.
Et la formation à l'intention des sages-femmes, est-ce qu'il y a des programmes déjà comme ça dans les hôpitaux?
Tout à fait, pas dans les hôpitaux, mais c'est les sages-femmes nationales du pays qui ont mis en place un programme qui s'appelle Teresa pour former justement les sages-femmes à cette bienveillance et à ces soins humanisés.
Bien, Madame Stéphie Louaoula, sage-femme indépendante, merci.
Avec plaisir.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien au Capi Service. Merci de l'avoir suivi. Tati Mapoukou a assuré la coordination et la réalisation. Jody Daniel Kachama au micro. Nelson Nyombe au multimédia. Dieudonné Nyangassa a assuré la mise en onde. C'était un plaisir de vous servir dans cette émission au Capi Service. Au Capi Service, je voulais dire. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la fréquence de la paix tout à l'heure. Après, vous allez suivre les informations. La grande édition du journal Parlé. Sur Radio Capi. On se retrouve demain pour un autre numéro d'Ocapi Service. À la prochaine.